las conferències de Radio Languedoc. Début de février de 2013, se débanèr ou apesenas dos jornades de rescondre sul PCI, Patrimoni Cultural Immaterial. Aquelles jornades, manejades per lo collectiu Patrimoni e Creacion, en partenariat amb lo Cirdoc de Béziers, recampèt cercaires e actors de terrenc. Escambièron sas pratiques, sas reflexions sur la sauvegarde e la transmission del patrimoni cultural immaterial occitan. Vos preparant d'escutar la segunda partida de las intervencions presentadas lo 17 e 12 de février de 2013 al Teatre Molière de Pézenas.
On va commencer la série des interventions des personnes qui ont accepté de parler de leur pratique et de leur recherche. Et nous allons commencer par Dominique Pauvert. Dominique Pauvert est donc historien, préhistorien, ethnomythologue. Et il enseigne aussi l'occitan. Il se trouve que récemment, il est devenu aussi enseignant d'occitan, en étant professeur d'histoire. Et depuis une bonne vingtaine d'années, il travaille sur le terrain pour à la fois collecter des éléments dans le cadre des traditions populaires, et plus particulièrement les carnavals, les fêtes calendaires, et encore plus particulièrement les carnavals. Depuis une dizaine d'années, nous travaillons ensemble donc pour faire ces enquêtes, ces collectages sur les fêtes calendaires et les carnavals. Je dirai quelques mots un peu sur notre façon de travailler tout à l'heure, peut-être. Nous avons créé une association qui s'appelle le CRIC. Centre interdisciplinaire de recherche sur les carnavals. Et puis ensuite, bien sûr, nous faisons partie du collectif et de son association qui va pouvoir organiser d'autres rencontres et surtout créer un réseau d'échanges entre chercheurs praticiens. Nous nous revendiquons comme chercheurs praticiens. C'est acteur aussi, puisque nous montons des carnavals, nous remontons des carnavals, et notre façon de travailler, donc ce qu'on appelle le collectage, les enquêtes, est à la fois notre terrain de recherche, d'observation, et en même temps d'immersion dans les pratiques. Voilà, donc nous sommes à la fois totalement à l'intérieur et totalement à l'extérieur. Donc voilà, c'est notre aspiration. Et puis bien entendu, ensuite, une fois qu'on recrée des carnavals, ça veut dire qu'on a beaucoup observé des carnavals, avant, pendant et après, qu'on a rencontré les gens, qu'on les connaît, et qu'on a tissé des liens avec eux. Donc nous n'envisageons pas le travail de recherche autrement que aussi tisser des liens. Nous fondons nos recréations de carnaval sur des enquêtes de terrain, mais pour reconstituer le paysage mythologique du lieu où on va créer le carnaval. Et ça, c'est venu du fait que quand nous allons sur place pour observer et participer au carnaval qui existe déjà depuis très longtemps, nous avons fait un lien assez rapidement entre les rituels, les formes du rituel et la mythologie et l'histoire du lieu où se passent ces rituels. Voilà en gros ce que j'avais à dire. Je vais passer la parole à Dominique qui va donc nous parler de la Saint-Blaise et en quoi Saint-Blaise, la fête de la Saint-Blaise, c'est aussi C'est surtout une fête de carnaval, mais en quoi la Saint-Blaise est une des figures de l'ours, de l'homme sauvage. Donc il va vous décliner différentes figures, expressions de l'homme sauvage, en commençant par la Saint-Blaise, puisque c'est le jour de la Saint-Blaise que nous sommes venus à Pézenas. Je vous invite bien sûr ce soir à venir assister à la fête. Et demain, pour ceux qui le souhaitent, allez assister à la messe de la Saint-Blaise. Il va y avoir une bénédiction des gorges. Dominique, je te passe la parole.
Bonjour. Je vais parler debout parce que d'abord je n'aime pas parler assis. J'ai tendance à m'endormir en parlant et c'est gênant. Et puis surtout, je vois pas mes propres photos, donc je préfère parler comme ça. Voilà. Donc je vais vous montrer des images tout à l'heure. Donc voyez ça, c'est pour attirer votre attention. Et donc j'ai la lourde charge de faire le lien entre les deux éléments de ce colloque. Donc la raison pour laquelle nous sommes ici ce week-end, donc le 2-3 février pour la Saint-Blaise, et puis évidemment des questions de collectage, de PCI et tout ce qui va avec. Donc là, je vais parler surtout de notre expérience par rapport, tout à l'heure, vous verrez, aux fêtes de l'ours du Val-Espire, puisqu'habituellement, le week-end le plus proche de la Saint-Blaise, on est à Ars-sur-Tech, dans les Pyrénées-Orientales, donc en zone catalane, mais quasi occitane, puisqu'il y a intercompréhension, j'en parlerai tout à l'heure, et c'est la première fois depuis des années où on n'est pas à Ars-sur-Tech, puisque c'est le dernier endroit des Pyrénées où ils font la sortie de l'ours à la bonne date. Bon. Et il se trouve en plus, coïncidence extraordinaire, que là, nous sommes précisément le week-end, à la fois le week-end le plus proche de la Saint-Blaise et du 2 février, mais précisément le 2 février, puisqu'on est le 2 février. Voilà. Donc, le 2 février, c'est la Chandeleur. La Chandeleur qui est théoriquement en version chrétienne, la fête des chandelles, mais qui s'est appelée dans le langage populaire jusqu'au XVIIIe siècle, la Chandelours. Même si théoriquement ça vient de Candelaria, etc. Alors là aussi, toujours la théorie classique des livres ethnologiques officiels. Oui, en fait, comme il y avait les fêtes de l'ours, l'Église a créé une fête des chandelles et le langage populaire a changé en chant de l'ours. Bon, alors ça peut très bien être dans l'autre sens aussi. Et si on prend, le travail sur les mots est extrêmement important dans ce domaine de recherche, si on prend le chant de l'ours, ça peut être la chandelle de l'ours, ce qui fait le lien entre l'ours et le retour de la lumière, j'en parlerai par rapport au 2 février, et aussi un jeu de mots avec le chant de l'ours, qui parle du rapport de l'ours à la gorge, et là ça nous ramène à Saint-Blaise. Et vous avez tout de suite, puisque je dois aller droit à l'essentiel pour ne pas me perdre en route. Et si je suis trop long, je vous suggère de m'arrêter, de me capturer et de me raser. Ça, inévitablement, ça me calmera et ça sera en adéquation avec la date. Vous avez derrière vous, non, monsieur, vous avez derrière vous des images. Alors ici, il y a Saint-Blaise, justement, le héros de demain. Cette gravure est tout à fait intéressante, c'est une gravure du XVIIe siècle. Et que voit-on? On voit Saint-Blaise. Bon, Saint-Blaise, rapidement, la légende de Saint-Blaise, c'est un saint de Cappadoce qui a vécu, comme beaucoup de saints, à l'écart, vivait dans une grotte entourée de bêtes sauvages qu'il apprivoisait. Alors c'est ce qui est théoriquement représenté devant vous et derrière moi. Mais que voit-on? On voit Saint-Blaise, non pas dans sa grotte, mais dans le creux d'un arbre, ce qui est la position d'un ours en hibernation, hein. Puisque l'ours n'hiberne pas dans une grotte, ou alors une toute petite grotte, mais il hiberne dans un creux, dans le trou d'un arbre, etc. C'est la manière dont on représente à cette époque-là l'homme sauvage. Et vous remarquez l'ours devant lui. Je sais pas si vous le voyez. Oui, vous le voyez, oui, forcément. Et donc, c'est la position d'un ours. Alors là aussi, c'est comme pour analyser les carnavals, les fêtes de l'ours. Dans un premier temps, on regarde et on voit ce que l'auteur a voulu qu'on voit. Puis au bout d'un moment, on regarde, on regarde, on regarde, et puis on oublie ce qu'on est censé voir et on voit ce qu'il y a vraiment. Donc qu'est-ce qu'on voit si on oublie la légende de Saint-Blaise et le fait que ce soit une illustration chrétienne de la légende? On voit un homme sauvage dans sa grotte, on voit que sa mitre, au-dessus de la tête, ça lui fait des cornes, donc c'est un homme sauvage cornu, extrêmement poilu, et qui est beaucoup plus grand que l'ours qui est devant lui. Voilà. Et donc, on a déjà le personnage qui est caractérisé, c'est-à-dire Saint Blaise est un homme sauvage, ours cornu, et qui est un géant. Et ça, j'ai dit, j'allais droit à l'essentiel. Pour ceux qui voudraient des précisions, je vais prononcer la phrase rituelle qu'on dit toujours pour commencer une communication dans ce genre, dans les colloques. Je n'ai pas le temps de tout dire, vous vous référerez aux actes quand ils seront publiés. Voilà, comme ça, c'est dit. Et donc, Saint Blaise, ça date en Occident, puisque dans le monde orthodoxe, il est fêté le 11 février. En Occident, c'est le 3 février, ce qui fait un lien et un doublé avec la date traditionnelle de la sortie de l'ours. Alors ça, dans toute l'Europe, et là c'est vrai aussi dans l'Europe de l'Est et jusqu'en Sibérie, traditionnellement, le 2 février, c'est la date de la sortie de l'ours d'hibernation. Donc, on dit que l'ours, soit le 2 février, soit dans la nuit du 2 au 3 février, sort de son hibernation, sort de sa tanière, et regarde le ciel. Bon, là, il y a différentes versions, mais pour simplifier, pour synthétiser, si le ciel est clair, l'ours se rendort, et le printemps est retardé de 40 jours. Tandis que si le ciel est sombre, il sort, et hop, il amène le printemps avec lui. Et voilà. Donc, le 3 février est la première date possible pour le Mardi Gras. Donc, sortie de l'ours, traditionnellement. Et les fêtes de l'ours étaient traditionnellement le 2 février. Sauf à un endroit. Et là, si tu peux montrer le haut de l'image, je veux dire. Sauf dans un endroit, dans le Val d'Aoste, où on a des carnavals, où traditionnellement dans les carnavals il y a des ours. Et là, le patron de la ville d'Aos, c'est Saint-Ours, qui est du 1er février. Et donc là, c'est le seul endroit où l'ours sort le 1er février, puisque c'est Saint-Ours. Et là justement, j'en profite, puisqu'on a une conjonction particulièrement riche pour les 2 ou 3 février. Si on regarde les saints du calendrier, je veux dire, on est en carnaval, hein, bon. Autour du 1er février, du 29 janvier au 6 février, on a une conjonction extraordinaire de saints liés avec l'ours. Le 29 janvier, on a Saint-Ursin. Le lendemain, on a Saint-Ursmère. Le 31 janvier, on a Saint-Ursicin. Le 1er février, on a donc Saint-Ours. Et j'ai découvert il y a 3 jours, en relisant en Périgord, à Terrasson, on a un saint qui s'appelle Saint-Sourd. Je me suis rappelé qu'il a été fêté le 1er février. Alors Saint-Sourd, ça s'écrit S-O-U-R, Saint-Ours, ça s'écrit O-U-R-S, déjà le premier truc. Mais en plus, ce Saint-Sourd, fondateur mythique de Terrasson, il vivait dans une tanière. Il se nourrissait d'herbes sauvages. Et à un moment, on dit qu'il a fermé sa grotte pour pas être dérangé pour prier. Donc il s'est enfermé. Il y est resté 14 ans comme ça. Et puis il a eu un signe qui lui a dit qu'il fallait qu'il sorte, et il est sorti. Bon, c'est une description magnifique de l'hibernation de l'ours. Donc c'est encore un saint ursin qui s'ignore. Donc jusqu'en Périgord. Hein. Le 1er février aussi, on a un certain saint Agrève, qui est dans les Alpes, qui n'a rien à voir apparemment avec l'ours, sauf que sa légende dit que un jour, ses ennemis avaient décidé de le tuer, ils avaient soudoyé son barbier, et le barbier devait l'égorger en le rasant. Et évidemment, une fois installé sur le siège, Saint Agrève a dit « Mais je sais ce que tu as l'intention de faire, tu n'y arriveras pas, mais fais-moi quand même la barbe. » Et le barbier, saisi de stupeur, s'est converti, évidemment, il a fait la barbe du saint, et il a gardé la barbe et les poils comme reliques qu'il a donné à l'église de Grenoble. Et vous verrez tout à l'heure comment se terminent les fêtes de l'ours du Vallespir catalan, mais c'est le rasage de l'ours. Donc on a bien une description, en réalité, sous le vernis d'une vie de saint, du rasage de l'ours. Le lendemain, en plus, on a la Chandeleur, Saint-Blaise, on en a parlé. Et après, on a Saint-Vaast, le 5, qui a vécu dans un ermitage avec un ours. Saint-Amand, le 6, dont l'âne a été dévoré par un ours et qui a obligé l'ours à le remplacer, etc. etc. Donc on a tous les jours, on a des saints à ours. Et il y en a un qui est tout à fait intéressant, c'est le 29, c'est un certain Saint-Vallier, dans les Pyrénées, qui est un ami de Saint-Martin. Saint-Martin lui avait donné son âne. Et le Saint-Vallier avait appelé l'âne Martin, normal, et l'âne a été mangé par un ours, donc l'ours a dû remplacer Martin, et l'ours est appelé Martin aussi. Donc ça, c'est intéressant, c'est un récit d'origine dans les Pyrénées du fait qu'on appelle l'ours Martin. parce que Martin est un énorme de l'ours. Dans les fêtes de l'ours catalane, là, les fêtes de Arles-sur-Tech, le trappeur, après avoir capturé l'ours, l'amène devant les gens et puis il dit « Aimables habitants del Dijous Valespir, vous menez l'ours marti, l'espan de la contrado. » Ce qui d'ailleurs, se dit en passant, pour... Vous voyez que c'est du catalan, mais ça ressemble... Bon, le catalan du Roussillon est extrêmement proche de l'occitan. Hein. « Je vous mène l'ours Martin, la terreur de la contrée. » Donc l'ours s'appelle Martin. Mais c'est une référence aussi évidemment à Saint-Martin, puisque la Saint-Martin, le 11 novembre, est le jour de l'ours, où l'ours entre en hibernation, il sort pour Saint-Blaise. Saint-Martin et Saint-Blaise étant complémentaires. Bon. Voilà pour... Non, c'est bon. Merci. Donc Saint-Blaise, en deux mots, là on l'a vu, donc là vous aviez une image de Saint-Ours, qui dans la cathédrale d'Aos, il a rien d'ursin, mais c'est pour son nom, et à côté vous avez un carnaval local, le carnaval de Sorolet du Val d'Aoste, où vous avez un ours là qui se livre à son activité favorite, embêter les gens. Bon, d'habitude c'est les jeunes filles, là apparemment c'est plutôt un homme, mais bon, c'est pas un problème. Et en dessous, vous aviez, je vous ai mis, si tu redescends, en face de l'ours de Saint-Blaise-Ours, vous avez mis l'ours de Saint-Laurent-de-Cerdan, donc un des trois villages du Val-Espire en question. Maintenant, la sortie de l'ours n'est plus forcément le week-end le plus proche du 2 février. C'est pendant les vacances de février pour des raisons scoléro-touristiques, mais bon, c'est quand même un moment du carnaval. Hein. Alors Saint-Blaise, et là tu peux peut-être revenir aux photos. Donc Saint-Blaise, en gros, est le patron de beaucoup de confréries. C'est le protecteur à la campagne, c'est le protecteur du bétail, notamment des vaches, protège le bétail. Moi, mon premier rapport avec les traditions populaires en collectage, ça a été justement Saint-Blaise. C'était il y a à peu près 25 ans. À l'époque, je chassais le dolmen en Périgord. Donc, j'ai passé mon temps à regarder les cartes au 25 millième. Je regardais tous les noms de lieux. Alors ça, c'est important pour la méthode, hein, parce que quand on étudie un lieu, une fête qu'il y a dans un lieu, immédiatement, il faut regarder. Enfin, il faut. C'est ce qu'on fait. Je dis pas qu'il le faut. Pas une obligation. Hein. On regarde tous les noms de lieux et c'est une analyse totale, quoi. La topographie, les noms de lieux et les noms de saints, etc., etc. C'est là qu'on a vraiment une idée claire de tout ce qui se passe. Donc, je vérifiais tous les noms avec les pierres quelque chose. Je cherchais les dolmens partout. Et à Amillac de Nontron, dans le nord de la Dordogne, il y a un village qui s'appelle Chantres. Chantres, c'est intéressant le nom. Et il y avait une chapelle Saint-Blaise. Et il y avait une source, la source de Saint-Blaise, complètement en dehors du village, et c'était un endroit que moi j'étais allé parce qu'il y avait un dolmen bâti par des fées en plus, un endroit très intéressant, il y a trois tumulus, un dolmen cassé, et la source au milieu, et qui était encore utilisée, il y avait un bâton avec des mouchoirs accrochés, et donc les gens m'ont expliqué que c'était la source de Saint-Blaise, qu'ils y allaient le jour de la Saint-Blaise pour prendre de l'eau, pour guérir les animaux, et c'était je suis pas allé depuis 20 ans, mais à l'époque c'était encore actif, alors je sais pas du tout aujourd'hui. Hein. Là, c'est là que j'ai commencé à m'intéresser à Saint-Blaise. Et puis après, par des lectures, j'ai fait le lien avec l'ours, etc. Donc, protecteur du bétail, protecteur de la gorge. Dans les messes de Saint-Blaise, on bénit la gorge, notamment avec des cierges croisés. C'est le patron, donc, en tant que protecteur de la gorge, patron des souffles, il est protecteur des chanteurs. Dans le village de Chantres, là, justement, c'était intéressant. Il est le patron des tisserands, des cardeurs, puisque lors de son martyre, il a été déchiré par des peignes de cardeurs, de fer. Bon, il a dû en passer un mauvais, de cardeurs. et voilà. Et il est patron des maçons, dans certains pays, avec le jeu de mots sur le souffle, des marins. Les marins anglais avaient interdiction de sortir le jour de la Saint-Blaise, puisque tous les vents risquaient d'être déchaînés ce jour-là. Un personnage extrêmement riche. On a fait le lien avec les chercheurs ont fait le lien avec certaines divinités, notamment en Europe de l'Est, le dieu Volos ou Vélès du panthéon slave. Et moi, enfin, je suis pas le seul, mais Il y a encore un lien encore plus intéressant, parce qu'en Lituanie, qui est le pays qui est resté le païen le plus longtemps en Europe, les Lituaniens ont été chrétiens à partir du XVIIe siècle. Donc ils ont leur tradition ancienne parfaitement conservée. Il y a un dieu qui s'appelle Vélinas ou Vélnias, qui aujourd'hui désigne le diable, qui est un des personnages principaux avec l'ours des carnavals lituaniens, donc il y a des cornes, et qui désignait un ancien dieu, qui était le dieu des richesses de l'autre monde, du bétail, et qui était le dieu aussi des musiciens, et qui était représenté soit sur la forme d'un taureau, d'un ours ou d'un serpent. Donc là, on a une espèce d'ancêtre de Saint Blaise, et qui nous fait penser à un personnage du monde celtique, et le dieu gaulois Carnunnos, le dieu corne de cerf, qui, d'après moi, est celui qui a donné son nom au carnaval, puisque moi je fais venir l'origine du mot carnaval, absolument pas de carne levare, comme on dit toujours, ce qui est une fausse étymologie ecclésiastique médiévale, mais de carne wallos, le mot gaulois qui veut dire le prince des cornes. C'est la fête du dieu Carnunnos, le maître de l'autre monde, christianisé, dont l'Église a fait le diable au Moyen-Âge. Bon. Le 2-3 février, c'est aussi pas très loin d'ici. Ici, vous avez les sauvages de la Saint-Blaise de Pézenas, même si c'est pas pris à Pézenas. C'est ce que vous verrez. Oui, mais tu peux continuer. Oui. Donc, vous voyez qu'ils portent un costume, qui est un costume qu'ici on appelle le costume de Pétassou. Ça me fait une transition habile avec ce qui se passe aujourd'hui même, pas très très loin d'ici, à Trèves dans le Gard, où c'est la sortie du Pétassou. Donc dans le village de Trèves, dont le patron est Saint Blaise, le 2 février, avance, s'il te plaît, sort ce personnage-là, qui est un personnage donc qui porte un costume fait de centaines de morceaux de tissu découpés. Le costume pèse 40 kilos. Hein. L'an dernier, on a participé à un débat avec les gens de Trèves qui le font, ça pèse 40 kilos. Ils en rajoutent chaque année. Et autrefois, ils brûlaient le costume à la fin. Là, ils le gardent, ils le continuent. Et donc, le Pétassou, oui. Oui, je vais le dire. Ça, c'est, tu peux montrer la suivante, justement. Donc ça, c'est des photos, c'est une photo de l'exposition qui a lieu actuellement à Millau, de Katia Fersting, ethnologue de Millau, donc, qui travaille depuis des années sur le Pétassou. Et là, donc c'est des mannequins, évidemment, mais les costumes sont les vrais costumes qui ont été prêtés par Trèves. Et la photo d'avant était une photo de Katia aussi. Donc, le Pétassou sort avec un balai de genêt. Il a une vessie de porc dans le dos, et il faut que les gens essaient de la lui crever. Donc, ce costume est tout à fait intéressant. Alors, nous, les Périgourdins, on sait que en Dordogne, le Pétassou, c'est le nom à peu près commun, le plus courant, disons, du carnaval. On dit, même si il n'y a plus du tout le costume, etc., on dit, on va brûler Pétassou, le nom est extrêmement courant. Alors, des fois, on peut avoir le costume. Tu peux passer la suivante. Ça, c'était au carnaval de Brantôme en 2008. Donc, le Pétassou, le maire va lui offrir les clés de la ville et il lui l'orne d'un colis de saucisses à la grande surprise du maire. La suivante. Voilà. Bon. Donc, ça, c'était en Dordogne. Et c'est un costume tout à fait intéressant. Alors, Pétassou, évidemment, on dit oui, c'est les pétasses, c'est-à-dire les morceaux de chiffon. Un Pétassou, c'est un morceau de chiffon. Alors après, on peut, sachant ce qui se passe en carnaval, on peut lire aussi un Pétassou, ça peut s'entendre, pour une oreille occitane, ça peut s'entendre comme un joli petit P bien formé. Ça peut se traduire comme ça. Donc, c'est à la fois le péteur, le morceau de chiffon et la nature du P. Puisqu'en carnaval, je rappelle, aux gens qui, par hasard, seraient pas au courant, il faut péter en carnaval, n'est-ce pas? C'est tout à fait nécessaire. Puisque ça fait circuler les âmes, enfin bon, vous connaissez, vous êtes des connaisseurs.
Las conferencias de Radio Languedoc.
Tout ça pour dire aussi, en passant, puisque je dois parler en même temps de la pratique, nous, comme l'a dit Christine, nous sommes chercheurs, mais on ne peut comprendre, surtout, quand on travaille sur des rituels, on ne peut comprendre vraiment qu'en se mettant dedans, qu'en participant, donc en étant dans l'esprit du carnaval et en étant dedans. Donc, bon, depuis le temps que je travaille sur le carnaval, j'ai été brûlé deux fois, ferré, je suis bien un certain nombre d'avanies, comme ça. Et donc, à force, je dois être inifugé, mais... Donc, voilà, et c'est pareil pour les carnavals qu'on verra tout à l'heure. Alors le costume du pétasso, rapidement, on va passer rapidement parce que c'est pas le sujet, mais moi je suis en train de, enfin, ça fait un moment, je fais une collection de costumes du pétasso. C'est fascinant parce que c'est un costume qu'on retrouve, c'est la, on le retrouve de la Sibérie à l'Afrique du Nord et avec une poussée jusqu'en Afrique noire. C'est l'extension exacte des carnavals. Donc c'est énorme. Tu peux passer en allant relativement vite. Bon, ça c'est, vous le verrez ce soir, c'est Savoie, n'est-ce pas, Christian? C'est bien Savoie, c'est pas des, voilà. Et ça c'est des Anglais. Alors là aussi c'est surprenant, c'est un Anglais, un musicien anglais. Oui, le suivant, vas-y, c'est voilà les musiciens anglais, des Morris Men anglais. Alors il est censé plus y avoir de carnaval en Angleterre. Il y a quand même une fête de l'ours en Angleterre. Alors là, pour ceux qui disent qu'on fait des fêtes de l'ours dans les Pyrénées parce qu'il y a encore des ours, bon, en Angleterre, l'argument tient assez peu. Continue. Voilà, les mêmes. Alors, c'est tout à fait intéressant. Ils sont noircis, comme les gens dans les Apras-et-Moyo. Ils ont des costumes, là, c'est un peu civilisé, déjà, ça, mais ils ont des costumes de type pétassou, des plumes sur la tête. Vas-y, continue. Voilà, encore un, vas-y. Bon, alors ça, c'est en Moldavie. En Moldavie, donc toujours, c'est les... Mais vas-y, c'est en Pologne, oui, c'est toujours le même costume. En Roumanie, et puis après, ça devient de plus en plus exotique. Ça, c'est un chaman sibérien. Et alors, c'est très courant en Sibérie. Ça, c'est Re-Saboy, mais parce que je voulais... Ça, c'était spécial, dédicace à Christian Coulon. La suivante, pour montrer que le costume de Saboy, en fait, tu devrais regarder où est-ce que vous rangez vos costumes, parce qu'il est exposé au Quai Branly, hein, quand même. Hein. Au musée du Quai Branly, sous le nom costume de chaman mongol. Hein. Alors, fais attention. Hein. Voilà, la suivante. Bon, voilà, après, tu passes assez vite. Hein. Ça, c'était... J'avais préparé ça, parce que je devais faire une conférence il y a 3 semaines au Quai Branly, avec le comparaison Sibérie et fête de l'ours pyrénéenne. Et puis, on était bloqué par la neige, ça a été annulé. Et là, je dois parler, il y a des gens qui sont bloqués dans le train par le feu, donc je méfie un peu de... Bon, on continue. Voilà, ben, vous voyez, hein, bon... Et puis, ça existe aussi en Afrique du Nord. D'ailleurs, en Afrique du Nord, je signale quand même que, pour ceux qui pensent que carnaval est une fête exclusivement dans le cadre chrétien, il y a quand même des carnavals en Iran, il y a quand même des carnavals au Maroc, qui sont pas connus pour être des endroits particulièrement chrétiens, n'est-ce pas? Bon, il y avait des carnavals à Rome, en Grèce, en Mésopotamie, chez les Juifs, etc., hein. Donc ça continue. Voilà, bon, on arrive à notre sujet principal. Et donc le costume bétassou, ça c'est un indicateur tout à fait intéressant. C'est harlequin aussi, hein, on le trouve en Italie, en Espagne, en Belgique, en Suisse, en Allemagne, en Autriche, en Géorgie, enfin bon, je veux pas non plus, mais c'est énorme. Et donc en Languedoc, c'est le costume d'harlequin. Harlequin au départ est complètement fait de morceaux de tissu tout à fait en haillon, puis il est devenu petit à petit, par le théâtre, bien civilisé, etc. Et Harlequin, c'est quand même le chef de l'armée des morts aussi au départ. Hein. Bon voilà, nous sommes à Arles-sur-Tech, Pyrénées-Orientales. Là, ce que tu devrais faire, c'est le diaporama. Alors, dans les Pyrénées-Orientales, donc dans le Val-Espire, la vallée au sud du Canigou, nous avons 3 villages, Arles-sur-Tech, Bras-des-Moyaux et Saint-Laurent-de-Cerdan, qui conservent la fête de l'ours. C'est le seul endroit, pratiquement les seuls endroits où l'ours est vraiment le centre de la fête. On a plein d'autres carnavals où l'ours est un des personnages, mais là, c'est vraiment la fête de l'ours. Donc ça, c'est le dimanche. Le matin, il y a des gens se déguisent en chasseurs. On a un personnage qui est habillé, qui est le chef des chasseurs, que là-bas, ils appellent le trappeur. Celle qui l'accompagne, la Rosetta, homme déguisé en femme, qui va attirer l'ours. Le matin, ils font le tour des places, dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Ça, c'est un élément, quand on fait du collectage de rituels comme ça, il faut toujours regarder absolument tous les détails. Donc, il faut revenir plus d'une fois. On ne peut pas sérieusement étudier un carnaval en y venant une fois. On commence à voir des trucs. Au bout de 3 ou 4 fois, on commence à voir des choses intéressantes. Et puis, l'intérêt d'avoir des photos, des tas de photos, c'est de pouvoir les revoir, voir les gens, l'attitude des gens, etc. Donc, le matin, ils font l'appel au peuple. Il y a un ours qui est là, il faut venir m'aider. L'après-midi, voilà, ça c'est le matin. Donc, ils tournent toujours dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. C'est tout à fait intéressant. Ça, on le retrouve dans tous les carnavals. Même le poulain de Pézenas tourne dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Que ce soit l'après-midi du Mardi Gras autour des boulevards, mais même dans les rues le soir. Moi, je l'ai suivi 2 ans de suite, en pensant toujours dans quel sens y tourner, alors qu'il fait les rues apparemment dans un sens complètement... Mais il se tourne toujours dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Ça, c'est une constante en carnaval. Voilà, alors là, tu peux y aller. L'après-midi, donc, l'ours va s'habiller en dehors du village. Il franchit le confluent, il franchit la rivière, il va dans le monde sauvage, à la limite des bois et du terrain de rugby. Et là, donc, il s'habille en ours. On vient le chercher. Ça, c'est l'habillage. Moment extrêmement important, hein. Ça, c'est tout à fait intéressant de voir les habillages. Ça, c'était l'an dernier où il neigeait. Là, il attend et on vient le chercher. Bon, il y a une lutte qui s'ensuit. Voilà. La rosette qui essaie d'attirer l'ours. L'ours s'en prend à ces espèces de personnages dont la fonction est de se faire taper toute la journée par l'ours. Là, on l'attire en dehors du... Il revient dans le monde civilisé, on l'attire en dehors de l'autre côté du pont. Là encore, les bottas se font taper dessus. Autrefois, c'était des tonneaux. Donc là, ils ont transféré avec des espèces de barriques en plastique. Donc c'était des tonneaux. Pourquoi l'ours les détruisait? Puisqu'autrefois, il les détruisait sur leur tête. Sans doute pour faire, symboliquement, faire échapper les âmes. Bon, il rentre dans les maisons. Il y a une espèce de lutte entre l'ours et le trappeur pour la rosette. Soit dit en passant, c'est exactement ce qu'on voit dans les représentations du jeu de Valentin Ourson chez Bruegel et dans d'autres... Donc le roman de Valentin Ourson, c'est une mise en roman de ce type de rituel qu'on retrouve depuis extrêmement longtemps. Là, l'ours s'échappe régulièrement et se jette sur les jeunes filles, comme c'est sa fonction. Voilà, Et sur toutes les places, alors là aussi on fait toujours le sens contraire des aiguilles d'une montre, sur toutes les places, il y a un jeu, c'est très, très théâtral, les gens se mettent en rond, il y a un jeu où le trappeur raconte la capture de l'ours, comment il l'a capturé l'ours, évidemment en catalan, c'est le même texte depuis, c'est une fête qui a été folklorisée, dans les années 60 elle est passée, ils l'ont mise l'été pour les touristes, mais ça a été remis à la bonne place en 81, avec un grand travail de conservation. Et Robert Bosque, qui l'a remise à la bonne date, avait interviewé tous les vieux qui le connaissaient quand c'était à la bonne date. Donc, le texte a été remis et c'est une des plus fidèles à l'origine. Voilà. Alors là, l'ours a été capturé. Le trappeur fait son discours. Il raconte comment il l'a capturé. Et puis, après, l'ours, il le fait danser devant les gens. Et alors, à la fin, qu'on va voir ici, l'ours, dans un dernier sursaut, capture une jeune fille. Dans la foule, il la transporte, il va l'emporter dans sa tanière qui a été aménagée sur la place. Alors ça, c'est une scène qui est très connue des folkloristes parce que on dit ben voilà, c'est le début de Jean de l'Ours. Alors là, ils sont ensemble, les gens regardent en se disant mais qu'est-ce qu'ils font dedans, on se demande ce qui peut se passer. Là, évidemment, la jeune fille s'échappe et après voilà la même chose, l'ours. L'ours meurt, il est tué, et on le ressuscite pour le raser, donc sur la chaise. Donc avec une pomme pour savon à barbe. Voilà, un rasage à la hache. Alors là, ils ont quand même pris une hache en bois, parce que comme ils donnent des grands coups sur le masque de l'ours, une hache en fer aurait été un peu embêtante. Le masque fait plus de 10 kilos aussi, hein. Et voilà, à la fin, l'homme apparaît sous l'ours. Et voilà. Bon, ça, c'était l'an dernier. Voilà, l'ours, chasse à l'ours, oui. Alors voilà, ça, c'est à côté, c'est à Prats. Moi, c'est des moyaux. Ça, c'est pas mes photos. Celle-là, c'est de Pierre Salle qui avait fait une exposition. Là, je les ai mises parce qu'elles sont magnifiques. Non pas que les miennes soient particulièrement moches, c'est pas la question, mais c'est très spectaculaire. Donc là, elle est très connue, celle-là. Elle est même très médiatisée. Où les gens s'enduisent d'un mélange de suie et d'huile, de peaux de mouton qui sont cousues directement sur eux, hein, c'est une peau de mouton fraîche. D'ailleurs, quand on essaie de les conserver, après, c'est assez épouvantable. Tu fais avancer. Hein. Voilà, alors ça, c'est très intéressant, parce que voilà, alors ça, c'est un... Reste quelques instants là-dessus. Ça, c'est les ours et les chasseurs. Il y a 4 ours. Maintenant, ils sont revenus à 3. Et chacun, ils sont avec 4 chasseurs. Et là, voilà, la démonstration même du fait qu'il faut toujours vérifier... sur place, y aller plusieurs fois, parce qu'on lit dans tous les livres, où il y a Prats de Moyaux, l'ours se jette sur les jeunes filles pour les noircir, ça c'est vrai, pas de problème, et les chasseurs, heureusement les chasseurs interviennent, ils tirent sur l'ours tombe mort, et on le rase, etc. On le lit tout le temps. Sauf que, et quand on le voit une fois, on dit, bah oui, c'est ça, les chasseurs sont là pour tuer l'ours. On arrive avec l'a priori de ce qu'on a lu. Mais le problème, c'est que, alors, ça ne marche pas. Les chasseurs ne chassent pas l'ours. Ils chassent avec l'ours. Dire, ils l'accompagnent. Quand l'ours prend une victime et la renverse par terre, mais ça va, c'est bon. Quand l'ours prend une jeune fille, là, celle-ci, par exemple, il la renverse, il doit noircir toutes les femmes du village. Il renverse sa victime, les chasseurs tirent en l'air. Donc ce sont les complices de l'ours. Ils chassent avec lui. Et c'est pas eux qui les capturent, c'est les barbiers. Donc en fait, de la même façon qu'Arles sur Tech, on mettait en scène le début de Jean de l'Ours quand l'ours capture la jeune fille. Là, on met en scène, en réalité, le conte de Jean de l'Ours, qui est un véritable, c'est plus un mythe qu'un conte. C'est-à-dire, toute la première partie, où les sauvages, Jean, qui est parfois décrit comme un sauvage noirci dans certaines versions, une version provençale où Jean et sa mère, ils sont montrés avec les visages noirs, comme les gens de Prasemoyo, et les autres, ce sont les compagnons de Jean de l'Ours. C'est Jean de l'Ours et ses compagnons qui chassent ensemble. Et après, à la fin, ils le trahissent, et là, l'ours est capturé, de la même façon que les compagnons trahissent Jean, qui se retrouve au fond de son puits. Voilà, alors là, le rasage, qui est très spectaculaire et très très agité, de l'ours rasé à la hache. Alors ça, c'est le problème de Prasemoyo. Bon, c'est très connu, très médiatisé. Et là, c'est un des dangers qui guette les carnavals. Attends, reste un instant là-dessus. C'est la médiatisation, le complexe de TF1. Et notamment là, le Prasemoyo et Saint-Laurent-de-Cerdan ont couru le risque d'être de se noyer dans le Pernod. À la fois Jean-Pierre et la boisson. Hein. Voilà, ça me permet d'aller plus vite, je condense, parce que c'était sponsorisé, ils le faisaient le même jour, parce qu'il y en avait certains qui étaient sponsorisés, non mais, les uns étaient sponsorisés par Ricard, les autres par 51. C'est pour ça qu'il fallait qu'ils le fassent le même jour, en se faisant concurrence. Donc on les obligeait à mettre des bobs avec le truc Ricard, et vraiment, le souci des organisateurs, c'est est-ce que c'est nous qui allons avoir TF1 ou Saint-Laurent-de-Cerdan? Et évidemment, là, on commence à ne pas forcément, à ne pas choisir certains pour faire les ours parce qu'ils sont trop incontrôlables, etc. Donc, ça modifie. Hein. Mais là, actuellement, il y a une convention qui a été signée entre les trois maires des trois communes pour ne pas faire la fête de l'ours en même temps. Il y a une cérémonie qui a été créée où il se passe à chaque fête, il se passe la patte de l'ours. Celui qui a la fête passe la patte de l'ours au maire d'à côté, etc. Voilà, le dernier, et passe à Saint-Laurent. Saint-Laurent-de-Cerdan, donc, troisième village, où ils avaient une peau d'ours qui était toute petite. Donc, il y avait que les gens de 1m60 qui pouvaient faire l'ours. Et puis, il avait les yeux bleus, donc, il faisait peur à personne. Donc, ils sont cotisés, ils sont allés au Canada acheter une vraie peau d'ours. Et là, bon, cette photo est intéressante. Je l'ai pris pendant l'habillage de l'ours. Donc, on le noircit. Et là, qu'est-ce qu'on capte sur les photos? On capte la transformation de l'homme en ours. Vous voyez le regard qui change de la première à la deuxième photo. Et là, bon, mais c'est plus lui, quoi. C'est l'ours. Hein. Il n'y a pas besoin d'imaginer des choses très compliquées. Ça se fait tout naturellement. Montre-en encore quelques-unes de Saint-Laurent. Oui, non, mais juste, ça va être fini, hein, après. Hein. Là, voilà, bon, l'ours qui rentre dans les maisons. Alors là aussi, il y a une chose intéressante à Saint-Laurent qu'on ne peut voir quand on le voit que plusieurs fois, quand on le voit plusieurs fois, c'est les allers-retours incessants de l'ours. Il fonce, et puis là, on s'est dit, ah, ça y est, il est passé. Et puis, tout d'un coup, on le voit revenir du bout de la rue. Alors moi, ça a commencé à m'intéresser quand j'ai vu le poulain faire exactement la même chose, hein, le mardi soir. Alors, au bout d'un moment, en fait, ça, c'est le temps. Hein. Il mime le temps. C'est un moment où c'est un balancier. Le temps hésite entre allant vers le printemps et l'hiver. Et le temps carnavalesque est un temps qui est complètement différent de la conception du temps qu'on a. Et moi, comme moi, je n'en ai pas du temps, je ne peux pas vous développer ça. Mais en gros, il mime le temps, hein. sans que ce soit forcément conscient. Parce qu'en carnaval, faut pas croire que les gens qui font ça, ils ont conscience de ce qu'ils font du point de vue symbolique. Après, c'est l'analyse du mythologue d'arriver à trouver ça à partir de plein d'éléments. Si on leur demande pourquoi vous faites ça, ben parce qu'on a toujours fait. Bon, ben, évidemment, c'est normal. Qu'est-ce qu'on attend comme réponse? Et tant mieux. Voilà le rasage de l'ours de Saint-Laurent. Après, il est mort. Et à côté, vous avez un personnage qui est propre à Saint-Laurent, qui s'appelle Amounac, qui est un personnage double, homme et femme. Bon, après, ça, c'est Valentin Ourson, non, pour montrer la version de Bruegel. Et puis, ça, c'est dans le cloître d'Arles. Mais après, j'avais le Tio-Tio, bon, enfin, j'avais d'autres fêtes de l'ours, mais j'ai pas le temps, là. Donc, franchement, je pense qu'on va s'arrêter là, hein. Bon, ça c'était l'ours de l'ours anglais, hein, l'ours straw bear.
Aussi, si quelqu'un veut intervenir sur la façon aussi dont Dominique a pu mettre en place son travail de collectage, un petit peu ses questions méthodologiques, son regard de mythologue aussi, si des personnes veulent intervenir. Il y a un micro qui peut circuler dans la salle.
Là vous avez le tio-tio, hein, bon, la danse du feu aux fesses, hein, qu'on a ici et qu'on a aussi ici. Sauf que là, on met des mèches en papier. Non, c'est plus inflammable, ça flambe plus. On participe directement. Est-ce que pas faire l'ours, par exemple, c'est pas possible.
Moi, je voudrais revenir sur la constante du sens de rotation lors du carnaval. Elle n'est pas respectée. Claude Rière. Alors moi, il y a 30 ans que je m'intéresse un peu au carnaval, surtout l'Angoussier, notamment les paillasses colontérales, qui est le plus grand carnaval du monde et le plus authentique actuellement, le poulain de Pézenas et les fécosses de Limoux, entre autres. Donc, pour en revenir sur la constante du carnaval, de rotation, à Limoux, il tourne dans le sens des aiguilles de montre. Il n'y a rien qu'une bande, à ma connaissance, qui peut tourner, mais je ne suis pas le constaté, donc j'en parle pas. Parce que je fais comme vous, je ne parle que des carnavals que je vois ou que je participe. Et à Colontéral, alors effectivement, le dimanche, pour le Corso, il est dans le sens des aiguilles de montre. Il est dans le sens inverse des aiguilles de montre. Mais pour le mercredi décembre, le jour des paillasses, il est dans le sens inverse, le petit défilé qu'il y a, il est dans le sens inverse des aiguilles du monde. C'est vrai qu'après, entre 3h à 6h et 18h, toute l'inversion y est plus authentique que les sens de rotation. Maintenant, c'est vrai que ce sens de rotation, à quoi ça correspond?
D'abord, c'est un constat. Après, j'ai pas le temps de développer. Bon, j'ai bien quelques idées là-dessus, mais bon, c'est pas le sujet ni le... Mais bon, évidemment, il y a toujours des exceptions. Hein. Comme une toute loi... Bon.
Parce que dans le tableau de Bruegel, c'est vrai que carême contre carnaval, si tu calcules, carnaval, il tourne dans le bon sens, il tourne dans le sens des aiguilles de montre.
Carnaval,
et carême dans le sens inverse.
Non, c'est carnaval tourne dans le sens contraire des aiguilles d'une montre et carême dans l'autre sens. Ouais. Justement, oui. Ça y est chez Bruegel, justement. Oui. Le carnaval est comme ça. Carnaval, enfin bon, ça dépend parce qu'on est inversé, donc, je l'ai pas malheureusement, là, mais, Carnaval tourne dans le sens contraire des aiguilles d'une montre et carême tourne dans l'autre sens. Et ils ne se rencontrent pas en réalité. Ils s'y se croisent. Bon, enfin. Bon, après, disons qu'on va dire que c'est, bon, dans les carnavals que j'ai vus, c'est quasiment tout le temps. Bon. On pourrait discuter, il y a toujours une ou deux exceptions, mais c'est tellement majoritaire que ça fait sens. En plus, il y a une certaine logique par rapport à l'inversion et l'inversion et la renaissance, parce que c'est inverser la course du soleil, donc c'est revenir à l'origine. Donc c'est en quelque sorte, on pratique une recréation du monde. Le carnaval, on revient au départ, ce qui est bien symbolisé par l'ours aussi. L'ours qui revient et qui ramène la fécondité, les âmes des morts, etc.
Une question?
Claude Achard. Est-ce qu'il y a un lien entre l'ours et John in the Green?
Et
John in the Green, c'est
oui. Oui, oui, ben oui, c'est l'homme sauvage. C'est le Jack in the Green, c'est la version, c'est-à-dire c'est l'homme sauvage feuillu. C'est la version printanière de l'homme sauvage qui est poilu l'hiver. C'est-à-dire il y a au mois de mai, après la période du carême, il y a Pâques, et après Pâques, une espèce de ressorti du carnaval entre guillemets avec l'ensemble des fêtes de mai qu'on va retrouver dans toute l'Europe. Et là, c'est par contre les héros, pour faire simple, c'est pas les poilus hivernaux, c'est les feuillus de printemps, dont le Jack in the Green. Pour ça, on dit souvent il y a pas de carnaval en Angleterre, parce que le Mardi Gras, il y a pratiquement pas de Mardi Gras, mais au moment de l'épiphanie ou au Noël, il y a énormément, les Maurice Dance sort, et puis il y a plein de fêtes après de mai, oui, par exemple.
J'y ai repensé à cause de Saint-Blaise tout à l'heure, dans une grotte, où tout simplement, l'ours de la Cerdagne, là, qui était dans une espèce de grotte pleine de verdure.
Oui.
Donc je me dis, John in the Green, il est dans sa grotte, lui aussi.
Oui, bien sûr. Ouais. Mais il est représenté, c'est comme Saint-Blaise. L'homme sauvage est représenté au XVIe siècle dans un arbre, comme un peu comme Saint-Blaise tout à fait au début. J'avais pas mis cette gravure très, très connue, l'homme sauvage dans le creux d'un arbre.
Et simplement pour dire que, à quel moment les praticiens le refont. Parce que du début des années 50 jusqu'à la fin des années 60, apparemment, ils n'en parlaient plus du tout. En 56, je sais qu'il y avait deux personnes, un ours et un chasseur.
Oui. Mais là, en fait, quand il y a un film de Lajoux, Jean-Dominique Lajoux, qui est de 1973, et effectivement, il y a très peu de monde, ils sont deux, il y a deux ours, et il y a quelques chasseurs, et ils sont, quand on est à l'habillage au Fort Lagarde en haut, il y a un monde fou. Il y a énormément de monde. Bon. Mais là, à l'époque, il l'a filmé, il n'y avait personne autour. Donc, et même au départ, si les témoignages du début du XXe siècle, la première moitié du XXe siècle, c'était même pas tout le village, c'était les tisserands. Alors là, c'est là où on rejoint Saint-Blaise, les tisserands qui étaient de l'autre côté. Tu vois la rivière qui est au milieu de Prats. Là. Il y avait la ville haute, il y a le tisserand qui était dans la ville haute qui faisait les ours. Le 2 février, il montait, il faisait les ours. Et après, il s'intéressait plus, même plus au carnaval. C'était les gens de la ville basse, la bourgeoisie de la ville basse qui faisaient le carnaval après. Alors que là, ils ont tout, comment dirais-je, ils ont tout rassemblé, hein, sur du dimanche au du samedi au mercredi matin. Tout est, il y a la fête de l'ours et le carnaval. D'ailleurs, le dimanche matin, le matin de la fête de l'ours, il y a le carnaval, le mannequin de carnaval qui rentre en ville, on le met dans la salle des fêtes et le mardi soir, on fait le tio-tio, et quand le tio-tio est fini, on sort le mannequin, on va le brûler. Donc, c'est tout à la suite. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont retrouvé, ah oui, là, c'était par rapport, ça, je l'ai pas montré, mais tu peux montrer, juste, voilà, tu descends en bas, il y a un comparatif, il y a marqué comparatif fête de l'ours. Parce qu'il y a des, par rapport à l'ancienneté de la fête d'Arsortiaction, on prend les motifs. Je me suis aperçu que ça inverse, motif par motif, exactement une fête de l'ours de Sibérie, chez le peuple des Quêtes, qui est le peuple le plus ancien de Sibérie. Motif par motif, tout est inversé. Voilà, ici. Là. C'est frappant. Hein. Arsortek, chez les Quêtes. Or, bon, ça c'est d'après ce qu'a montré Lévi-Strauss. Quand les motifs sont semblables ou quand les motifs sont complètement inversés, c'est une fête qui a la même origine. Hein. Ça, c'est une preuve que la Arsortek, il n'y a aucun rapport, évidemment, direct. Ce qui donne à l'ancienneté, au plus récent, c'est une fête qui a une origine, disons, au plus récent, paléolithique supérieur récent. Un homme adulte est choisi dans le village, un ours enfant est capturé dans la forêt. En fait, tout est inversé exactement. Hein. Donc, il y avait, pour conclure, il y avait dans le livre de Michel Pastoureau sur l'ours, histoire d'un roi déchu, qui du point de vue des renseignements de recherche livresque est bon, très excellent, mais alors, il parle des fêtes de l'ours du Val-Espire, il dit, oui, les fêtes de l'ours qui ne subsistent que de manière folklorisée, et on ne peut rien en dire sur l'origine médiévale des fêtes de l'ours. Voilà, là, c'est exactement ce qu'on dit quand on n'est pas allé voir sur place. Parce que, premièrement, on peut avoir une apparence folklorisée, parce que certains ont un costume un peu costume traditionnel catalan, tout simplement parce que à un moment, ça a transité. Ça a survécu parce que le groupe folklorique s'en était emparé et il avait fait l'été. Alors ça, on peut le regretter, mais au moins, ils ont conservé les motifs. Et donc, ils ont gardé ça quand ça a été remis à la bonne place. Donc, il faut aller au-delà du fait que certains soient habillés de manière comme ça. Et en plus, bon, ben, l'origine médiévale, ça, c'est les historiens. Ils ne peuvent pas remonter au-delà du Moyen-Âge. Alors que la mythologie comparée permet de dater que ce soit les contes, les motifs de contes ou les motifs de fêtes à beaucoup plus anciens que ça. Bon, le carnaval a à l'évidence une origine préhistorique. Bon, c'est une bonne conclusion, non?
Voilà, oui. Merci.
A causer la seconda partita de las intervenzioni realizzadas a Pesenas, lo 17 e 12 de febbraio de 2013, din l'incastre del seminario organizzato per lo collettivo Patrimoine e Création. Sur la thématique del PCI, patrimoine culturel immatériel. Un partenariat à Melusirdoc.